Bonjour à toutes et à tous. Chat Alors est deux des exposants du salon de l'immobilier de Rodez qui ouvre ses portes aujourd'hui à la salle des fêtes. C'est le menu du mag. Aujourd'hui, Chat Alors, ce sera sur le thème de la stérilisation. Emeline a invité une vétérinaire. Avant ça, donc, le salon immobilier, c'est tout le week-end à la salle des fêtes de Rodez. CFM sera d'ailleurs présent parmi la trentaine d'exposants. Promoteurs, agences immobilières, financeurs, associations, notaires, j'en passe. Une entreprise de diagnostic. Et puis, il y a plusieurs constructeurs, évidemment. Construction rénale, notamment basée à la Primaube. Bonjour, Jérôme Alvan.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de Construction Rénale, vous êtes basé à la Primaube et je vous appelle à l'occasion du salon de l'immobilier de vendredi à dimanche à la salle des fêtes de Rodez, un salon auquel vous allez participer. D'abord, Jérôme, première question, Construction Rénale, on est dans l'immobilier, c'est-à-dire que vous construisez des maisons ?
On construit essentiellement des maisons individuelles. Un aparté aussi, un petit peu de rénovation et des extensions de maisons individuelles également.
Vous avez une spécialité ou une proposition particulière en construction rénale ?
Du tout, on fait que du personnalisé. Donc en fait, on s'adapte en fonction des souhaits du client, donc dans du contemporain, du traditionnel, du moderne. Aujourd'hui, on est ouvert à tout type de construction.
Alors quand vous dites on fait que du sur-mesure, c'est-à-dire que la personne arrive avec des plans d'architecte et hop, vous faites tout ?
Du tout, c'est nous qu'on fait la conception. Donc on discute au préalable, on passe peut-être une heure, deux heures avec le client. Du coup, lui nous donne un petit peu ce qu'il aimerait, lui, en termes de projet de construction. Et nous, derrière, on le retranscrit sur papier.
Comment ça se passe, là, cette année 2021 pour la construction de maisons et la construction rénale en particulier ?
Alors, on a fait une bonne année en termes de vente. Après, on verra bien cette fin d'année comment ça va se passer avec tous ces problèmes qu'on a au niveau des achats de matériaux, des approvisionnements. Donc, on verra bien.
Ah ouais, parce que c'est vrai que ces choses-là, même si moi je suis pas dans le métier, mais j'en ai entendu parler depuis plusieurs mois déjà, hein, des constructeurs qui se plaignent, enfin en tout cas qui constatent déjà des tarifs plus élevés pour leurs matériaux de construction, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis si c'était que des hausses des prix, encore ça irait, mais aussi parfois des délais de plusieurs mois pour des pièces qui peuvent sembler un peu banales.
Exactement. Aujourd'hui, on est sur des choses comme du 15-16 semaines de délai pour avoir des menuiseries. D'un côté, oui, comme vous dites, les hausses de prix intempestives. Tous les jours ou tous les deux jours, on a nos fournisseurs qui nous annoncent des hausses. J'espère que ça va se calmer rapidement parce que sinon, je ne sais pas comment ça va se passer.
Du coup, ça entraîne forcément des délais pour vous ?
Alors, des délais, oui, après, on essaye de s'organiser, justement, et d'adapter. Moi, vous voyez, aujourd'hui, je commande des menuiseries avant d'attaquer le pavillon, de manière à éviter mes délais. Quoi. C'est de l'organisation, quoi, c'est tout.
Comment vous expliquez ces hausses de prix, ces problèmes de possibilité d'avoir certains matériaux ? Tout le monde se met à construire des maisons dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe ?
Ça, je peux pas vous dire exactement quoi, mais en tout cas, ce que je constate, c'est sûr qu'on a des hausses de prix qui sont, mais rien que sur du métal, on est à plus de 40, 45, 48% aujourd'hui. À l'étranger, c'est vrai qu'ils achètent beaucoup de matières premières en Europe qui ont fait apparemment monter énormément le tarif, quoi.
Vous avez déjà connu une situation comme celle-là, avec des hausses de prix, des problèmes pour se fournir ?
Moi non. Non ? Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis aux constructions rénales. J'ai jamais eu cette problématique.
Et alors d'après les infos que vous avez ou le ressenti, enfin l'expérience du métier, on est parti pour une situation qui va durer comme ça encore quelques mois ou beaucoup plus longtemps ?
Moi, mes fournisseurs me disent que ça risque encore d'augmenter peut-être jusqu'au milieu de l'année prochaine. Mais aujourd'hui, personne n'est devin, donc personne ne peut savoir, hormis les industriels. Nous, à notre échelle, on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer, cette problématique.
Donc bon, ça c'est un souci, j'imagine, pour vous. Mais alors, le pendant, quand même, c'est que vous me disiez que cette année, vous n'avez pas forcément gagné d'avance, vous travaillez bien.
Ah oui, on avait fait un bon début d'année, quoi. Après, le problème, c'est que c'est vrai que le client entend ces hausses de prix, donc moi, que forcément, je suis obligé de répercuter sur mes tarifs de pavillon. Et donc, c'est vrai que ça engendre des coûts supplémentaires et je pense que les clients, soit ils doivent se dire, peut-être qu'on va attendre, voir comment ça va se passer. Donc aujourd'hui, je sais pas, on verra.
Alors tiens, vos clients, justement, ceux qui se font construire de beaux pavillons, que vous leur... concevez et que vous bâtissez. Parce qu'on entend aussi toujours autour de la crise sanitaire qu'il y a beaucoup de gens qui quittent les grandes villes, qui veulent s'installer un petit peu plus au vert. Alors pourquoi pas l'Aveyron, pourquoi pas Rodez? Donc ces clients que vous avez, c'est des clients venus d'ailleurs ou alors c'est des Aveyronnais qui quittent un appartement pour une maison? C'est quoi un peu le client type?
Moi, le client type, quand même, c'est quand même l'Aveyronnais, oui, voilà, qui construit son pavillon. Alors, j'en ai quelques-uns, bien sûr, de l'extérieur qui viennent, mais c'est pas quand même mon cheval de bataille, on va dire.
Alors, vous allez participer au salon de l'immobilier, la salle des fêtes de Rodez, à partir de vendredi jusqu'à dimanche. C'est quoi l'intérêt pour un constructeur de participer à un salon? Ça vous prend tout un week-end déjà?
Tout à fait, mais déjà ça reste donc une image. Je suis un constructeur qui fait très très peu de publicité sur le courant de l'année. Donc du coup, ben voilà, on donne une priorité à ces salons. Bien sûr, il faut toujours se faire voir, et puis ça permet, voilà, à des clients lambda qui connaissent pas les constructions, qui viennent au salon, mais de faire connaissance et puis derrière de leur proposer un pavillon s'ils le souhaitent.
En venant comme ça sur un salon, on peut, bon, il faut avoir l'envie, le projet, voilà, et même éventuellement le financement, mais on peut rentrer dans le salon, vous rencontrer et ressortir avec quasiment le plan de la maison, les clés, la date de l'arrivée prévue, etc. J'exagère un peu.
Non, du tout. du tout. On n'est pas promoteur, on est constructeur. Donc avant toute chose, le client lambda qui arrive, déjà, est-ce qu'il a un terrain? Ça, je ne sais pas. Moi, je construis sur un terrain qui appartient au client. Donc dans un premier temps, il y a quand même la démarche d'aller chercher un terrain pour que moi je puisse lui proposer un pavillon qui s'adapte surtout au terrain. Si on ne fait pas l'inverse, c'est pas la maison, c'est pas le terrain qui s'adapte à la maison. Mm-hmm. Le terrain il est existant, c'est la maison qui s'adapte au terrain. Donc en fonction forcément de la pente, de la nature, du sol, tout ça, il faut adapter un type de pavillon. Donc du coup, moi quelqu'un qui vient au salon ce week-end n'aura pas un objectif, on va dire à N plus 1, de déménager.
Sinon, autour de la construction de maisons, de pavillons, c'est quoi un petit peu les tendances là, 2020, 2021, les trucs à la mode pour les maisons, soit dans les matériaux, soit carrément dans un peu l'architecture, on va dire?
Après l'architecture, on reste quand même sur des choses assez assez basiques, quoi. On revient beaucoup sur de l'ardoise. Hein. Après, on fait, vous voyez, c'est surtout l'envie du client. Hein. Moi, j'ai des clients qui veulent rester sur des maisons traditionnelles, d'autres qui veulent faire du contemporain, d'autres du très moderne. C'est en fonction, justement, on est là pour s'adapter et soumettre quelque chose qui convienne surtout au client.
Eh ben c'est parfait, et on aura l'occasion de vous rencontrer. Jérôme, c'est vous-même qui allez être présent au salon ou c'est des personnes de vos...
Il y a aussi mon associé, Monsieur Fraisse, qui sera présent. Donc on sera sûrement tous les deux, oui, sur le salon.
Ok, eh ben c'est bien noté. Et on aura l'occasion de se croiser, puisque CFM sera aussi présent à l'occasion de ce salon d'immobilier, salle des fêtes de Rodez, à partir de vendredi. Merci Jérôme.
Je vous remercie.
Autre professionnel présent cet après-midi et tout le week-end à la salle des fêtes de Rodez pour le salon de l'immobilier, DG Diagnostic, basé à Curan. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes dirigeante de l'entreprise DG Diagnostic.
Oui, c'est bien ça.
Et on va pouvoir vous rencontrer, notamment si on n'a pas déjà eu l'occasion avant, de vous rencontrer à l'occasion du salon de l'immobilier à partir de vendredi après-midi. Ce vendredi après-midi, 14h, ouverture des portes. Et jusqu'à dimanche, fin de journée, vous serez présente avec un stand et parmi la trentaine d'exposants présents à l'occasion de ce salon de l'immobilier, la salle des fêtes de Rodez. Première chose... Excusez-moi Daniel, hein, mais je suis pas du tout expert en immobilier et tout ce qu'il y a autour. DG Diagnostic, bon, ça fait du diagnostic, mais alors quoi comme diagnostic? Parce que moi je connais les trucs ABCDEF, les machins énergétiques, mais est-ce que c'est ça votre travail?
Alors c'est qu'une toute petite partie du travail. Les lettres ABCDEFG, ce sont les lettres pour le diagnostic des performances énergétiques, pour la classification des biens. Mais il y a aussi dans le diagnostic tout ce qui est les diagnostics pour l'électricité, le gaz, l'amiante, les termites, le plomb, et puis aussi les états des risques, qui n'est pas obligatoirement fait par le diagnostiqueur. C'est-à-dire les inondations, mouvements de terrain, sismicité, si la zone est classée aussi radon. Voilà, mais c'est juste ça, c'est juste pour une indication.
D'accord, ouais, donc une panoplie large de diagnostics, on va y revenir dans le détail. Là, quand je vous parlais des lettres, A, B, C, D, E, F, qu'on voit quand on regarde des annonces immobilières, là, on est sur du diagnostic énergétique pour évaluer un petit peu la qualité de l'immeuble ou de l'appartement, c'est ça? Ou de la maison?
Alors, pour classifier, en fin de compte, la maison, pour l'isolation, surtout pour la consommation, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
C'est obligatoire?
Voilà. C'est une obligation autant pour la location que pour la vente.
Est-ce qu'il y a des situations qui font que un appartement ou une maison est dans un tel état que le diagnostic énergétique est catastrophique et qu'on ne peut pas le vendre en l'état?
Alors pour le moment, pour les ventes, il n'y a aucune obligation. Il y a une classification. L'acquéreur est au courant que dans l'état, il consommera à peu près la consommation qui a été calculée lors du diagnostic. Mais il n'y a pas d'obligation. Les obligations ont commencé à apparaître pour les biens qui sont mal classés, si on peut le dire, pour le locatif. Là, il y aura des sanctions. Il y a des dates butoirs surtout auxquelles les biens ne pourront plus être loués. Et puis, où il n'y aura plus possibilité d'augmenter les loyers pour inciter les propriétaires à améliorer leur logement.
Alors, les autres types de diagnostics que vous effectuez, vous avec votre société Daniel Néral, on le rappelle, DG Diagnostic, vous avez parlé de radon, de termites, de quoi d'autre?
Le diagnostic des performances énergétiques, l'amiante, l'électricité, le gaz, le plomb, les termites, le mesurage aussi, loi Carrez, loi Boutin, loi Carrez pour les ventes et loi Boutin pour les locations, les biens qui sont en copropriété.
Ces diagnostics, ça fait toute une panoplie. Là, vous m'avez dit, il y en a qui correspondent simplement au fait quand on est en copropriété. Mais l'ensemble de ces diagnostics, qui sont de la même façon que pour l'énergétique, ils sont obligatoires, facultatifs, ils sont à la charge du propriétaire, de l'acheteur, du vendeur?
Alors, tous ces diagnostics sont obligatoires pour la vente et la location, enfin pas tous, suivant les dates de construction, mais on est obligé de faire des diagnostics pour les ventes et les locations. Pour les ventes, avant 1949, c'est le diagnostic des performances énergétiques, l'amiante, l'électricité, le plomb. Nous, en Aveyron, il y a les termites. Et puis, le gaz, s'il y a une installation de gaz. Et puis, suivant les dates, quand c'est après 97, il n'y a plus besoin de l'amiante ni du plomb. Et dans la tranche 48-97, là, il n'y a pas besoin non plus du diagnostic plomb. C'est à peu près pareil pour les locations, sauf que les locations, c'est juste le diagnostic des performances énergétiques, l'amiante partie privative, l'électricité, le gaz et le plomb aussi. Il n'y a que les termites qui ne sont pas obligatoires pour le locatif.
Des termites, pourtant, on en a en Aveyron, vous m'avez dit. On s'en doutait peut-être un petit peu. Le radon, je précise, c'est un genre de granit en Bretagne. Il y en a pas mal, ça émet un petit peu de radioactivité. Il y a du radon en Aveyron?
Oui, il y a du radon dans certaines régions de l'Aveyron, hein. Mais c'est pas partout. Ce sont des cartes que tout le monde peut avoir sur Internet où il y a possibilité d'avoir, hélas, du radon dans les habitations.
Daniel, j'ai envie de vous demander que l'on fasse un diagnostic autour des termites, autour de la déperdition énergétique, du radon. J'imagine que c'est pas les mêmes matériels que vous utilisez. Vous baladez avec une camionnette plein de technologies.
Alors, on a un peu de matériel quand même. Jusque-là, on pourrait avoir une camionnette, pas trop, mais oui, il y a du matériel pour l'électricité, le gaz. Un appareil aussi pour mesurer la valeur du plomb dans les peintures. Et puis, l'amiante, c'est à force de voir des matériaux amiantés qu'on a l'œil qui s'affine. Et quand on a un doute, on fait une analyse pour déterminer en laboratoire. Ça, c'est pas nous qui le faisons, on fait des prélèvements. Et on envoie ce prélèvement en laboratoire pour déterminer s'il y a des fibres amiantées ou pas dans ces matériaux.
À quel moment on s'adresse à vous dans un processus soit d'achat, soit de location d'appartement ou de maison?
Normalement, c'est avant la location et avant la mise en vente. Surtout, alors, pour le diagnostic des performances énergétiques, c'est une obligation d'avoir ce diagnostic pour la mise en vente. Mmh. Le restant des diagnostics peuvent arriver au moment de la signature du compromis, mais au compromis, on est obligé, le propriétaire est obligé de fournir à l'acquéreur et aussi chez le notaire tout l'ensemble du dossier diagnostique.
Alors Daniel, je précise que j'ai eu du mal à vous avoir au téléphone cette semaine avant ce salon d'immobilier, la salle des fêtes de Rodez. Vous travaillez beaucoup, vous êtes très prise à longueur de journée. Ça veut dire que vous êtes en pleine bourre, d'un certain point de vue c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire que pour quelqu'un qui est concerné par ces diagnostics, il vous appelle maintenant, il les a quand tous les papiers?
Alors le délai actuellement, c'est pour chez nous, qu'on essaye de faire au plus vite, c'est 15 jours, 3 semaines actuellement. Pour avoir le rendez-vous. Après, pour avoir le dossier, s'il n'y a pas d'analyse justement amiante, Le dossier, en général, c'est 48 heures, même 24 heures. Le lendemain, normalement, on doit avoir le dossier. Enfin, le propriétaire doit avoir son dossier. Chez nous. Hein.
Ouais. Vous me donnez l'impression de travailler beaucoup en cette rentrée 2021. C'est le cas, ça va bien, ça bosse?
Oui, ça bosse. Ça bosse bien, oui.
Et vous récupérez un petit peu ce qu'il y avait de retard, peut-être pas de votre point de vue, mais du point de vue des clients, dû à la crise sanitaire, ou non, il y a vraiment une activité intéressante et qui va au-delà du rattrapage?
Ça va au-delà du rattrapage, c'est une activité qui... Enfin, déjà, on travaillait bien, mais l'activité, depuis la fin du dernier confinement, a explosé. On a énormément de travail par rapport à toutes ces mises en vente, les gens veulent acheter, donc certains mettent en vente obligatoirement, hein, pour qu'il y ait une balance. Mmh. Et il y a pas mal d'activités.
Le retour que vous avez, puisque vous rencontrez les personnes évidemment, c'est un lien avec la crise sanitaire, envie de changer d'air, changer de paysage, changer de décor, ou pas spécialement?
Si, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, c'est ça qui prime. C'est aussi changement de vie, changement... Après, les familles s'agrandissent, donc des logements plus grands. Il y a plein de choses, mais beaucoup, suite à la crise sanitaire, les gens veulent avoir un petit peu d'espace extérieur. Et un appel de la campagne, peut-être, en espérant qu'ils restent tous avec nous. Il faut s'adapter.
Voilà, tout à fait. Et alors vous, pour le coup, vous êtes adapté, Daniel. Enfin, vous êtes peut-être originaire de là, mais DG Diagnostic, vous êtes à Curan. Hein, donc, en parlant de campagne, là, on y est, quoi.
Ah, c'est la campagne, oui. oui. C'est pas profonde, mais la bonne campagne, oui.
Et alors, votre activité, elle rayonne à combien de kilomètres de Curan?
Alors, Normalement, je couvre une grande partie de l'Aveyron et je couvre aussi le Lot, parce que j'ai mon collègue qui, lui, couvre le Lot. Nous sommes deux diagnostiqueurs. Donc, le Lot, l'Aveyron, je couvre aussi une partie de la Lozère. Et voilà, déjà, c'est bien.
Ah bah oui, c'est très bien. Vous devez aligner les kilomètres, vous, sur une année.
Un petit peu, oui. Les voitures, vraiment, ce sont des bonnes voitures, mais il faut les changer.
Dans tout cet agenda très occupé que vous avez, vous avez quand même le temps de participer à ce salon de l'immobilier, d'être présente à la salle des fêtes de Rodez à partir de vendredi après-midi jusqu'à dimanche, fin de journée, oui. 19h, je crois. Vous serez présente à travers un stand. Vous serez présente vous-même, Daniel?
Alors, moi, je serai présente et mes collègues aussi.
D'accord. Et c'est pourquoi, pour vous, l'intérêt de donner un week-end pour être présent sur une manifestation comme celle-là?
Alors, c'est déjà échanger avec tout un grand public, de renseigner, voilà, c'est beaucoup d'échanges. Puis aussi de voir, parce qu'il y aura les notaires, il y aura aussi les agents immobiliers, toute cette partie de ces gens qui autour de qui nous on satellite, enfin voilà, c'est pour rencontrer tout le monde et puis aussi les personnes qui sont intéressées, qui veulent avoir des renseignements sur tous ces diagnostics, on est là pour les tenir au courant.
Je vous rappelle que l'entrée est gratuite, hein, tout ce week-end pour le salon immobilier à la salle des fêtes de Rodez. Allez, pour terminer le mag comme tous les vendredis, c'est Chat alors. Avec Emeline Blanc-Gauthier, bien sûr, comportementaliste félin, et une invitée cette semaine.
Bonjour, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin. Chaque semaine sur CFM Radio, je vous parle des chats. Ce 18 septembre, c'est la journée nationale de la stérilisation féline. Cette journée a été créée en 2018 et a pour but de lutter contre les idées reçues et encourager la stérilisation. Pour répondre aux questions les plus courantes sur la stérilisation, je suis ravie de recevoir Cynthia Olivier, docteur vétérinaire à Rodez d'un Chat alors. Bonjour Cynthia.
Bonjour Emeline.
Merci d'être venue répondre à quelques questions. Alors, est-ce que tu peux nous indiquer à quel âge on peut faire stériliser son chat?
Alors, la stérilisation peut se pratiquer globalement à tout âge. En général, on conseille aux gens d'attendre que le chat ait une taille... suffisante entre guillemets pour les anesthésies, c'est-à-dire aux alentours de 6-7 mois, que ce soit pour le mâle ou la femelle. Mais ce sont des interventions que l'on peut pratiquer dès le jeune âge, hein. Dès 2-3 mois, hein. C'est possible aussi.
C'est donc possible de stériliser à tout âge, même des chats seniors?
Oui, tout à fait. Oui.
Comment se passe la stérilisation pour les femelles et pour les mâles?
Alors, en pratique, ce sont deux interventions très différentes, puisque pour le mâle, c'est une intervention relativement rapide, qui nécessite uniquement l'ouverture au niveau du scrotum, donc c'est vraiment juste externe, entre guillemets, à l'animal. Alors que pour la minette, c'est une intervention qui est un peu plus lourde, puisque c'est une anesthésie qui dure un peu plus longtemps et durant laquelle on pratique une ouverture du ventre hein, pour aller accéder directement au niveau des ovaires et de l'utérus. Donc, c'est pas tout à fait le même genre de chirurgie. Voilà. Pour la minette, on enlève vraiment tout l'appareil reproducteur. Alors, c'est soit les ovaires, soit carrément les ovaires et tout l'utérus si jamais il y a une pathologie ou une gestation non désirée au niveau de l'utérus. Alors que pour le mâle, on reste vraiment uniquement à l'extérieur au niveau des testicules.
C'est pour cela qu'il y a une différence de prix entre le mâle et la femelle.
Oui, tout à fait, exactement, c'est ça. C'est que c'est pas le même temps opératoire et la même difficulté, entre guillemets. Quoi.
D'ailleurs, à ce sujet, combien ça coûte une stérilisation?
Alors, pour les mâles, on est aux alentours entre 60 et 75 euros en fonction des cliniques. Et pour les minettes, c'est à peu près le double. Il faut compter entre 110 et 140 euros à peu près.
Il existe des alternatives à la stérilisation?
Alors oui, pour les mâles, il existe des implants qui visent en fait à faire des castrations chimiques. C'est possible, hein, il n'y a pas de grand danger pour l'animal. La seule chose, c'est que en pratique, on l'utilise pas trop parce que c'est pas des implants qui durent à vie, donc c'est quelque chose qu'on a besoin de renouveler. Et donc, en général, les gens préfèrent opter pour une option un peu plus radicale, à savoir enlever les testicules. Pour la minette, il existe également des pilules, comme chez la femme. Alors, contrairement à chez nous, ces pilules sont pas dosées, on va dire, de façon optimale en œstrogène. Et du coup, on a plus d'effets secondaires que d'effets vraiment bénéfiques à l'utiliser. Alors certes, ça coupe les chaleurs et les minettes n'auront plus de chatons, mais par contre, on sait que l'utilisation prolongée sur plusieurs mois, il n'y a pas besoin forcément de le donner pendant plusieurs années, peut prédisposer à des gros soucis, notamment des tumeurs au niveau des mamelles et au niveau de l'utérus, qui sont chez la minette assez graves et en général, dans 90% des cas, malignes. Donc du coup, il vaut mieux pas trop utiliser ce genre de produits.
En sachant que ça revient souvent bien plus cher que la stérilisation qu'on pourrait faire dès le départ.
Exactement.
Et qu'un chat qui ne serait pas attrapable, donc à qui on donne la pilule à distance, peut être capturé par un piège. C'est sans douleur, il est amené à la clinique vétérinaire, il est endormi, il est stérilisé et ensuite il est relâché. Donc la stérilisation peut se faire aussi sur des chats que l'on nourrit dans la rue. C'était important de le dire. Est-ce qu'on doit faire une première portée à une femelle avant de stériliser? Ça, c'est une idée reçue. Peux-tu y répondre?
Et oui, alors non. C'est une idée reçue, exactement, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire une première portée à sa minette, mis à part le plaisir, entre guillemets, que ça peut apporter au propriétaire de se dire, voilà, ma minette, ça reproduit, mais la chatte en soi, elle, je pense qu'elle s'en fiche. Et au contraire, on a montré que plus on stérilisait de façon précoce, avant les secondes chaleurs, plus l'intérêt et le bénéfice était grand sur tout ce qui est prévention des tumeurs au niveau des mamelles et de l'utérus. Donc au contraire, c'est même presque négatif, entre guillemets, péjoratif de faire reproduire sa minette avant de la stériliser. Quoi.
D'accord. Ça change le caractère de stériliser un animal?
Alors, ça le change un petit peu dans le sens où du coup, il n'y a plus l'instinct, entre guillemets, enfin le caractère de reproduction. Et du coup, en général, ce sont des animaux qui peuvent être un peu plus calmes, surtout pour les mâles qui ont tendance, lorsqu'ils ne sont pas castrés, à fuguer, à aller se promener à des kilomètres de la maison pour chercher des minettes. Du coup, ça fait des animaux un peu plus sédentaires. Et après, pareil, comme il n'y a plus de comportement de reproduction, non plus, il y a moins de nécessité de marquer le territoire et du coup on peut avoir des modifications voilà au niveau de tout ce qui est marquage urinaire chez le mâle, donc éviter de faire des petits pipis un peu partout dans la maison.
Voilà. Donc finalement ça enlève des comportements gênants pour l'humain, donc c'est plutôt positif.
C'est plutôt positif, voilà. En tout cas pour tous les gens qui se disent globalement mon chat va être stérilisé, il va plus bouger, il va plus chasser, il va être complètement raplapla et devenir obèse, c'est pas du tout le cas. Il faut juste faire un peu attention, mais en tout cas, ça reste des animaux qui chassent et qui ont quand même envie de se promener, de bouger, quoi.
Oui, tous les chats stérilisés ne sont pas obèses.
Non.
Ça dépend de leur mode de vie et des activités qu'on leur propose. Et si le chat se balade moins, ça peut peut-être aussi éviter les bagarres,
oui.
Les conflits.
Oui, oui, tout à fait. Alors, en général, les chats qui se bagarrent sont des chats entiers qui, du coup, se bagarrent pour pouvoir défendre un peu leur territoire et défendre, entre guillemets, leur secteur de chasse et
de reproduction.
Voilà, de reproduction. Merci. Donc, du coup, ça, c'est des animaux qui cherchent moins la bagarre, ça c'est certain, quoi. Et du coup, il y a moins de soucis d'abcès, de blessures en tout genre. Là, c'est vrai qu'en ce moment, enfin là, c'est un peu la fin de la saison, mais globalement, à partir de mars jusqu'à septembre, c'est le gros de l'année où on a des chats, des abcès de chats, en veux-tu, en voilà, quoi.
Quelle est pour toi la première raison pour laquelle il faut faire stériliser son chat?
Alors, indépendamment de tous les problèmes médicaux, le principal intérêt, c'est que du coup, ça réduit le nombre de chatons errants, entre guillemets, qu'on peut être amené à trouver dans les rues. Donc, c'est vraiment le principal intérêt, c'est voilà, de réduire la population de chats qui est déjà globalement assez importante.
Bien sûr, je ne vais pas te contredire, je vais complètement dans ton sens là-dessus. On sait que les refuges sont saturés, les associations, qu'il y a beaucoup de chats dans les rues. Je pense aussi, Cynthia, que tu peux me confirmer que plus la population est grande, plus les maladies transmissibles se développent plus rapidement.
Oui. Tout à fait.
Donc, pour faire un petit résumé, on a vu que ça changeait le caractère, mais de façon positive, que le chat ne grossissait pas forcément, qu'il y avait un coût, mais que ça c'était tellement bénéfique que c'était un investissement pour le bien-être de son chat. Voilà, donc je pense que on a lutté ensemble contre les idées reçues, on vous a encouragé à stériliser. Merci Cynthia Olivier, docteur vétérinaire à Rodez, pour être venue dans les studios de CFM Radio d'un chat alors.
Merci pour l'invitation.
Merci Emeline, et à la semaine prochaine. C'est déjà la fin du MAC pour aujourd'hui. Alors rendez-vous tout le week-end sur CFM ou bien à la salle des fêtes de Rodez où je serai présent sur le stand de CFM Rodez à l'occasion du salon de l'immobilier. Ciao, ciao.